Bien, il ne savait qu'une semaine, hein, dimanche dernier, on était ici, hein, on se réjouissait autour de nos baptisés, hein, autour d'Alix, Georgette, Monira et Pierre. Il y avait de la joie, hein, et j'espère que nous on l'a fait, mais je pense que vous l'avez tous fait. On a prié, hein, pour nos jeunes baptisés. Donc pendant la semaine, hein, vous avez dit, c'est des bébés, il faut en prendre soin. Hein. Ils sont là ce matin, là, ils sont tout rayonnants. Là, hein. Je pense que la semaine, ça a été bien pour eux. Hein. Et on avait compris que c'était une démarche d'engagement. Hein. Ils se sont fait baptiser pour montrer publiquement qu'ils voulaient être disciples de Jésus, marcher à la suite de Jésus. Et ils avaient compris donc ce que Jésus avait dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et qu'il me suive. Et renoncer à soi-même, en français il y a un mot, vous savez, qui dit la même chose. Hein. Renoncer à soi-même, c'est obéir en fait. C'est obéir. Le baptême, c'est un pas d'obéissance. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas de vie chrétienne épanouie, vie chrétienne qui porte du fruit, sans cette obéissance, hein, à ce que le maître nous demande. Eh oui. Donc c'est pour ça que, Jésus avait dit d'ailleurs, hein, je vous rappelle, il a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, hein, et n'accomplissez-vous pas ce que je vous commande. Et il dira aussi, vous êtes mes amis si vous faites, hein, ce que je vous commande. Donc, s'engager à la suite de Jésus, effectivement, ça implique une vie de consécration, d'obéissance. Je vous dis ça parce que donc j'ai à cœur de vous partager donc ce matin, eh bien, une méditation sur l'obéissance en fait. D'où le titre du message. Eh bien, c'est obéir à Dieu. Et j'ai mis en sous-titre l'arche du salut. Pourquoi l'arche du salut? Parce que je vais donner en exemple d'obéissance, je vais donner Noé. Et en même temps, ça permet de faire la relation. Déjà, j'ai parlé du baptême de dimanche dernier, mais Pierre nous dit dans 1 Pierre 3, 19 à 22. Que les événements, enfin donc, il parle de ceux qui ont été sauvés par les eaux grâce à l'arche, et dit ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager avec Dieu avec une conscience pure. Hein. Donc, ça préfigurait, hein, ces événements préfiguraient le baptême. Et ailleurs, Jésus dira que ça sera comme au temps de Noé, donc les temps de la fin, et il donne des signes annonciateurs des temps de son retour, et il faut reconnaître qu'on vit des temps difficiles. Jésus a dit, lorsque la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. Hein. À l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger, à boire, à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporte à tous. Les gens à l'époque ne profitaient qu'effectivement, pensaient qu'à profiter de la vie, du plaisir de la vie, sans se préoccuper de plaire à Dieu. Absolument pas. La corruption donc était vraiment à son comble. Et on est prévenu dans la parole de Dieu qu'au temps de la fin, Matthieu 24, 12, c'est Jésus qui parle, parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. D'accord. Il dit aussi en Luc 18, 8, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore de la foi sur terre? Et le tableau que la Bible nous donne des temps de la fin, hein, n'est pas tellement réjouissant. Hein. Vous connaissez bien ces passages, je vous rappelle, par exemple, 2 Timothée 3, 1, 2, je vous lis le début, hein, mais vous connaissez, vous pourrez le relire d'ailleurs. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards, prétentieux, ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse, autrement dit blasphémateur, selon les traductions, ils n'auront pas d'égard pour leurs parents, ou autrement dit, rebelles à leurs parents. » Et la liste continue, hein, bon, je m'arrête sur le mot « rebelle aux parents ». Parce qu'on retrouve la même liste, vous savez sûrement, en Romains 1, 29-31, c'est le même tableau, et là encore, il est précisé, enfants rebelles aux parents. Donc, on sait, Dieu nous a prévenus, qu'on va vers des temps où la caractéristique sera la rébellion et la désobéissance. Donc, laissons-nous quand même mettre en garde, et ben, faisons ce que dit Proverbe 18, dit « un esprit sage prend à cœur les commandements » et s'y soumet. Donc commençons par un constat déjà, c'est que l'obéissance elle est un peu passée de mode. Hein. On vit vraiment à une époque où on met de plus en plus l'accent, c'est vrai, sur le développement de la personnalité, l'épanouissement personnel, la prise en charge précoce des responsabilités. Maintenant les enfants, hein, ils sont, on leur confie beaucoup de responsabilités. Bon, c'est bon, attention, hein, je ne dis pas que c'est mauvais forcément. Mais il y a une qualité qu'on oublie de maintenant, je dirais d'enseigner, enfin de développer, c'est l'obéissance. Je dirais que c'est un peu passé de mode. Hein. L'obéissance est démodée. Et quand c'est pas clairement même déconseillé, on a des spécialistes, des pseudo-psychiatres qui vont vous dire, en fait, que ça va nuire à l'épanouissement de l'enfant, que de l'obliger à obéir. Bon. Et c'est vrai que l'enfant, il est à peine né, hein, encore bébé, ben le moi, il s'affirme tout de suite, hein, vous savez, il revendique déjà ses droits. Il a compris qu'il suffisait de crier, de hurler, pour qu'aussitôt les parents, eh bien, pour être tranquilles, ils vont céder, hein, à ses besoins, ou plutôt à ses caprices, hein, souvent. Ben oui. Donc c'est l'enfant roi, donc l'entourage se met à genoux souvent, et malheur à celui qui se permet de contrarier, hein, ce que ce petit chéri a décidé. C'est vrai. C'est un peu ça, hein. Bon, je schématise, c'est pas dans les familles chrétiennes bien sûr, hein, parce que là il y a d'obéissants, mais enfin on voit quand même beaucoup, hein, c'est dans l'air du temps. Là. Mais attention, hein, je parle des enfants, mais nous on n'est pas mieux, hein, parce que quand il s'agit de se soumettre à l'autorité de quelqu'un, d'autre, ça nous fait grincer un petit peu aussi. Hein. On va pas dire qu'on est enthousiaste. Bon, pour l'enfant, donc, parce qu'obéir, c'est se soumettre à l'autorité de quelqu'un d'autre. Hein. Donc, pour l'enfant, ça va commencer avec déjà les parents, les enseignants, puis ensuite le monde adulte. Mais pour nous adultes, on est toujours mis en rapport avec une hiérarchie. Il y a toujours des supérieurs, hein, auxquels on doit se soumettre, hein, quel que soit le domaine. Hein. Ça va être le patron, le chef, un responsable, une autorité politique, une autorité religieuse. Bon, on doit se soumettre. Et pour peu qu'on n'est pas d'accord, ben tout de suite, eh bien, ça y est, hein, vont naître des pensées de rébellion, de désobéissance. Et je dirais que c'est d'autant plus dur de soumettre notre nature charnelle à quelqu'un, qui nous l'impose, qu'on n'a pas été habitué petit. Hein. Et c'est pour ça que, hein, conseil aux parents, bon, vous le savez, mais c'est l'occasion de redire, on doit habituer l'enfant très jeune à obéir. Parce que s'il n'obéit pas à ses parents, comment voulez-vous qu'un jour il obéisse à Dieu ? Pas possible, ça. C'est pas possible. D'autant que même obéir déjà aux parents, c'est déjà un commandement de Dieu. Hein, Dieu veut qu'on respecte les parents, et quand ils sont âgés, hein, qu'on prenne soin d'eux, qu'on les aide, hein, quand ils sont en difficulté, malades et tout, ne pas le faire, c'est déjà s'opposer à la loi de Dieu. Mais je dirais, à plus forte raison, quand on a une autorité qui... Toute autorité vient de Dieu, on le sait. Donc elle est ou voulue par Dieu, ou permise par Dieu. Pas toujours voulue, mais Dieu permet. Dans ces cas-là, eh bien... on s'y soumet. Bon. Et en fait, c'est ce qu'on aime le moins, l'obéissance, mais c'est ce que Dieu aime le plus. Et on ne peut pas être sauvé, écoutez-moi bien, en dehors d'une obéissance à Dieu. Donc, obéissance, c'est une clé du salut. L'obéissance, c'est la clé du salut. Et saisissez bien ce parallèle-là. En fait, d'un côté, il y a l'humanité qui a été perdue à cause d'une désobéissance, et elle a été sauvée à cause de l'obéissance. D'un côté, ça se passe... dans deux jardins, et effectivement, les conséquences sont opposées. Le premier jardin, c'est donc le jardin d'Éden, un merveilleux jardin où, effectivement, eh bien, Dieu a mis tout ce qu'il fallait pour ses créatures, tout est à disposition. Hein, c'est merveilleux, la relation est parfaite, l'homme, il est heureux, il ne peut pas être plus heureux. Dieu n'avait fait qu'une mise en garde de ne pas manger donc de l'arbre, hein, de la connaissance du bien et du mal. On sait comment Satan est venu, comment Satan a tenté par le mensonge Adam et Ève, et comment ils ont désobéi. Et depuis ce temps-là, eh bien, il y a eu jugement de Dieu. On vient au monde avec une nature qui se rebelle à Dieu, qui ne veut pas obéir à Dieu. Donc, ça, c'est le point de départ. C'est parti de là. Mais, ensuite, donc, deuxième jardin, c'est Gethsémané. Vous savez que Gethsémané veut dire pressoir à huile. C'était donc, dans ce jardin, il y avait des oliviers. Et c'est là qu'on pressait donc les oliviers, il y avait un pressoir pour faire de l'huile. Et c'est dans ce jardin que Jésus va se rendre, donc, après avoir pris la Pâque avec ses disciples. Et c'est là qu'avant d'être arrêté, il va donc mener le combat. C'est là que ça s'est joué, hein, le combat pour notre salut. Parce que Satan va tout faire. Il a essayé avec Adam et Ève, il a réussi. Il va essayer avec Jésus. Il va essayer de le décourager pour qu'il n'aille pas jusqu'au bout de sa mission. Il va le rendre conscient, eh bien, voilà. Voyez les enfants, je sais pas si... on les entend, hein. Non, c'est parti. Et quand un enfant fait du bruit, des fois, on dit « chut !» pour qu'il obéisse. Satan, il va donc... Jésus, il est conscient de l'horaire de la croix. Il est conscient de cette séparation, le poids du péché, la séparation que le péché met entre eux. Son père... Et lui, puisqu'il se charge de tous les péchés, il est conscient de la colère de Dieu par rapport précisément à ce péché, l'atrocité des douleurs qui l'attendent, le supplice de la croix, tout ça, Jésus en est conscient. Et à un point où vraiment il est écrasé, il est comme vraiment dans le fond du pressoir. Ça, ça l'écrase. Et Luc dit même que c'est, il a sué, sa sueur est comme des grumeaux de sang. On n'imagine pas vraiment ce que Jésus a pu éprouver dans ce moment-là. Mais c'est là qu'il va crier vraiment, on connaît à son père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et cette obéissance, donc, par amour, va le conduire jusqu'à la mort sur la croix. Non, on est sauvé par foi, c'est gratuit, mais cette foi, ensuite, elle va devoir se manifester par une obéissance à ce que Dieu nous demande. Donc, autre point, c'est que l'obéissance, elle réjouit le cœur de Dieu. Parce que si souvent Dieu a reproché, quel était le reproche de Dieu à son peuple, et à ses créatures même, mais surtout à son peuple, c'était sa désobéissance. Mais à l'inverse, ce qui réjouit le plus le cœur de Dieu, c'est un cœur qui lui obéit. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Ça, c'est Samuel qui a dit ça à Saül. Saül vient de désobéir parce qu'en fait, dans son combat contre les Amalécites, Dieu avait donné l'ordre, comme souvent, de ne pas prendre le butin. C'était dévoué à l'Éternel, donc il ne fallait pas y toucher. Malheureusement, Saül a permis à ses soldats de prendre du butin, le bétail aussi, beau bétail et tout. Et après, ils ont offert un sacrifice, avec le bétail, entre autres, qui a été pris. Mais, vous relirez dans le passage, ça n'a pas plu à Dieu, ça lui a déplu. Et c'est là que donc Samuel dit à Saül que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et il continue, la soumission vaut mieux que la graisse des béliers, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination, la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. J'obéis pas, ça veut dire qu'en fait je mets quelqu'un d'autre que Dieu au-dessus de moi. Quoi. Donc en fait, je suis un idolâtre. Mais à l'inverse, quand j'obéis à Dieu, quand je fais ce que Dieu veut, en fait, quand je lui offre tout, ce que je suis, ce que j'ai, mes désirs et tout, pour les soumettre au plan de Dieu, à ce que Dieu veut pour moi, eh bien, non seulement je réjouis le cœur de Dieu, mais il va me donner le moyen, en fait, d'accomplir. Et je dirais qu'à mon tour, quand j'obéis, ça veut dire c'est la meilleure preuve d'amour que je puisse témoigner à un Dieu qui m'aime, savoir lui obéir. Comme l'enfant, il va montrer à ses parents qu'il aime en obéissant à ses parents. Eh bien, c'est pareil. Donc, quand on veut faire plaisir à quelqu'un, eh bien, on fait ce qu'il lui demande. Et pourquoi croyez-vous que Jésus est appelé le Fils bien-aimé du Père, celui qui fait l'objet de toute son affection, sinon pour la raison que Jésus a toujours obéi à son Père. Et on peut dire que Jésus est l'exemple parfait de l'obéissance, ou l'exemple de l'obéissance parfaite. C'est pareil. D'accord. Bon. Multiplier les détails. On va prendre dès le départ. D'ailleurs, tout de suite, c'est la citation quand même Paul aux Philippiens, parce que dans Philippiens, c'est vraiment le passage où Paul montre comment Jésus s'est humilié, s'abaisser, donc pour devenir homme et jusqu'à la croix. Il dit ayez les sentiments qui est en Christ. Autrement dit, obéissez comme Jésus obéit. Ça, c'est vrai. Donc, c'est notre modèle. Et après, quand on va dès qu'il vient dans ce monde, Hébreux. Hébreux 17 nous dit « Tu m'as formé un corps, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, j'ai dit « Me voici pour faire ta volonté au Père ». L'obéissance veut que les sacrifices. Tu n'as pas voulu de sacrifice, je viens pour faire ta volonté. Bon. Au départ, après on sait que toute sa vie publique, les évangiles le montrent à Jésus qui est toujours soucieux de retrouver son Père, d'être à l'écoute de ce que son Père veut, de faire ce qu'il voit faire au Père, de dire ce qu'il entend dire au Père. Enfin, c'est toujours précisé, Jésus il est toujours calqué sur le désir de son Père. Okay. Et c'est pour ça qu'il ira jusqu'à la mort sur la croix, comme on l'a rappelé tout à l'heure aussi en prenant la Sainte Cène, c'est vrai. Bon, mais avant que Jésus vienne, donc, Dieu avait des projets, et on s'aperçoit qu'il a toujours utilisé des hommes et des femmes de foi qui étaient obéissants à son égard, qui faisaient ce que Dieu voulait. Et on a en Hébreu 11, vous connaissez, c'est vraiment la galerie des tableaux, Hébreux 11, des hommes et des femmes de foi. Et en fait, on connaît bien, bon, on cite souvent Abraham, c'est vrai, qui est un exemple, mais celui qu'on cite le moins souvent, bon, effectivement, c'est Dieu ce qui précède Abraham, c'est Noé, en fait. Et il est marqué en Hébreux 11:7 que, par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. Et en agissant ainsi, il a condamné le monde. Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi, et on pourrait dire en raison de son obéissance, parce que sa foi, il l'a mis en pratique. Bon. Et quand on regarde le contexte qui était celui de Noé, donc j'ai parlé déjà un peu de celui de la fin des temps, mais déjà du temps de Noé, prenez avec moi vos Bibles quand même. Hein. On est quand même là aussi pour qu'on regarde par soi-même ce que dit la parole de Dieu. Je peux vous citer, mais c'est bien que vous lisiez avec moi. Hein. Alors Genèse chapitre 6. Bon. Alors donc déjà, l'humanité très vite ça se dégrade. J'ai parlé de la chute d'Adam et Ève. On sait que les enfants, tout de suite, au chapitre 4 de Genèse, on voit qu'Cain va tuer Abel déjà. Hein. Donc déjà la haine, la violence arrive dans le monde. Et regardez à partir du chapitre 6, à partir du verset 5 à 8. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Ça peut surprendre d'entendre ça dans la bouche de Dieu. Est-ce que Dieu peut se repentre, disons que regretter d'avoir fait quelque chose? Non, en fait, c'est une façon humaine de parler. En fait, Dieu veut dire que, voyant l'état moral de l'humanité, il se devait de réagir, en fait. Bon. Mais Dieu savait, hein, c'est pour ça. Il ne peut pas se repentir au sens de regretter. Il savait, il avait anticipé déjà. Okay, bon. Et alors donc, heureusement qu'il y avait Noé, un homme juste et irréprochable. Merci Noé, donc, d'avoir été cet homme. Parce que finalement, le premier salut et la première sauvegarde de l'humanité, elle est venue par Noé. Eh oui, on l'oublie des fois. Hein. Okay. Et qu'est-ce qu'il a fait Noé, alors, finalement? Noé, il a simplement, lui, s'afficher, il a obéi. Hein. C'est la suite. Genèse 6, on va lire quand même. On va lire. Vous avez l'image de l'arche, mais ce qui est important, on va lire ce qu'il a fait. Verset 11 à 22. La terre était donc corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Dieu dit à Noé, le temps de toute chair est arrêté devant moi. Ils ont rempli la terre de violence, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois et de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un second, un troisième. Moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, faisant une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture, ainsi qu'à eux. Et verset 22, vous soulignez bien, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Et au chapitre 7, au suivant, regardez le verset 5. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Voilà l'obéissance de Noé. Bon. Mais en fait, vous savez, quand on réfléchit, ça paraît tout simple. Ce verset pourrait zapper pratiquement, ne pas nous y arrêter. Mais remettez-vous dans le contexte. Hein. Il fallait beaucoup de foi. Qui est assez fou pour construire une arche dans le désert? Eh oui, un bateau dans le désert, c'est fou. Il a passé une grande partie de sa vie, finalement, pour un projet qu'il n'était pas sûr du tout que, en fait, ça allait servir, que ça allait être efficace. Il a hypothéqué, je dirais, tout son avenir sur quelque chose qui n'était jamais arrivé et qui était inconcevable, impensable. Parce que, réalisez aussi une chose, si vous relirez en Genèse 2, 5 et 6, il n'y avait encore jamais plus sur Terre, pratiquement. Parce qu'il est dit que l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre, de l'eau se mit à sourdre et à irriguer toute la surface du sol. On pense qu'à l'époque, la terre était irriguée par l'humidité qui venait du sol. Donc, pas par de l'eau qui tombait, donc à plus forte raison imaginer des pluies diluviennes, c'était pas pensable. Donc c'était déjà dans le contexte, il fallait beaucoup de foi. Hein. Et Donc il va s'activer la construction, et certains disent, enfin la tradition dit, c'est pas prouvé, attention, c'est pas prouvé, mais la tradition dit qu'il, non seulement, donc il va faire pousser des arbres pour avoir du bois, parce qu'il fallait bien du bois. Il a fait pousser les arbres, il a attendu que les arbres soient grands, et après il a fait les planches, et on construit. Bon. Et il n'avait pas de référence sur la matière, il ne savait pas comment construire un bateau. D'accord ? C'était du jamais vu. C'est pour ça que les indications donc, de Dieu, elles sont précieuses. On a vu donc la longueur, la largeur, là où les avez en mètres, ça parle mieux que des coudées. Hein, vous voyez, 150 mètres de long, 25 mètres de large, 15 mètres de haut. Moi, j'ai pas fait le calcul, il y en a qui l'ont fait pour moi. Hein, et je me fie à leurs chiffres, ça faisait quand même 500 000 mètres carrés de surface. Ça faisait quand même beaucoup. Hein, plus de 500 wagons de marchandises. Donc, ils pouvaient mettre beaucoup quand même d'animaux. Hein. On ne se rend pas compte. Hein. C'était pas un petit bateau. Hein. OK ? Il faudra attendre le 19e siècle maintenant pour trouver un bateau de cette taille. Bon. Mais l'arche, il est dit, d'après les spécialistes, elle avait des proportions vraiment idéales pour résister aux plus grandes tempêtes. Et c'est normal, c'était Dieu l'ingénieur, c'était Dieu l'architecte, il savait comment la construire. Bon. Je vous ai mis ça, le dernier qui est sorti, là, il n'y a pas longtemps, hein, il n'y a pas deux mois encore. Hein. Bon. Le Symphony of the Sea. Là. Bon. Là, si vous regardez les dimensions, elles sont doubles. Il est deux fois plus long, il fait 362 mètres. Il est deux fois plus large, il fait 47 mètres. Et trois fois plus haut, 66 mètres. Équipage plus les passagers, ça fait 9000 personnes. C'est une ville flottante. Hein. Bon. Je ne vous ai pas montré le Titanic, mais des fois, on pense au Titanic. Le jour, si jamais ça venait à couler, ça fait beaucoup de gens perdus. Mais je pense moi, à tous ceux qui sont sur les bateaux de croisière. La majorité, spirituellement, ils sont peut-être en perdition. Hein. Enfin, passons. Hein. Ça, c'était pour faire le mettre en contraste. Et à côté, vous voyez, l'Arche de Noé, c'est un cargo qui transporte du bétail. Hein. Pas plus. Hein. Un gros cargo. Mais c'est quand même lui qui nous a sauvés, qui a sauvé Noé, sa famille, et les espèces animales. Merci, Noé. OK. Autre point, c'est que l'obéissance, elle rime souvent avec persévérance. Et persévérance dans des choses simples. Parce qu'à bien regarder, Noé, il n'a rien fait de spécialement héroïque. Il a fait que scier des planches, finalement. Et les planter avec des clous, c'est tout ce qu'il a fait. Dieu n'a pas demandé d'aller parcourir le monde, prêcher la bonne nouvelle comme il va demander à Paul, par exemple. Non, non. Tu prends des planches, tu les scies, tu fais un bateau. OK ? Bon. Mais ça a quand même pris à peu près une centaine d'années. Parce que si vous lisez la Bible, Genèse 5, 32, il avait 500 ans lorsqu'il a eu ses enfants. Sem, Cham et Japhet. Oui, en ce temps-là, on ne comptait peut-être pas pareil. Enfin, on est étonné, mais il avait 500 ans. Lorsque Noé est entré dans l'arche, il avait 600 ans. Vous voyez l'espace de temps. Là. Bon, on va pas. Ça veut dire qu'il a quand même, il a mis du temps. Surtout s'il a fait pousser les arbres. Hein, c'est sûrement l'acte d'obéissance le plus long qu'on ait dans la Bible. Là. Et là, je fais une parenthèse maintenant. Des fois, on va se plaindre. Bon, notre travail, on a l'impression qu'on fait rien d'être vraiment utile. Hein. Noé, il avait une scie, un marteau, des clous. Bon. Vous, chacun a votre travail, il y en a qui ont l'ordinateur, il y en a qui vont avoir, un aspirateur, il y en a qui vont avoir un instrument de musique, il y en a qui vont avoir, bon, quel que soit, ce dans quoi vous travaillez, il y a un outil. C'est pas grand chose, on dit qu'est-ce que je fais là. Mais Dieu se sert de tous les domaines professionnels pour accomplir son œuvre. Hein. Il n'y a pas un métier qui est plus valorisé qu'un autre. Pour Dieu, tout est bon. Il peut se servir de tout, c'est déjà important ça. Hein. Colossiens 3, 17 nous dit « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Et on connaît aussi, donc, « Faites tout pour la gloire de Dieu », dit Paul, c'est aux Corinthiens, hein, à Corinthiens 3, 31. Donc, cessons de nous dévaloriser, hein, en disant « ça vaut rien, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de valeur. » On dit des fois « ça vaut pas un clou ». Vous avez déjà dit ça, vous l'avez déjà entendu, « ça vaut pas un clou ». Bon. Eh bien, vous connaissez peut-être pas, mais il y a un dicton qui dit ceci. À défaut de clous, s'il manque un clou, le fer du cheval va se perdre. Un cheval qui n'a plus le fer à son sabot ne peut plus galoper. Bon. Du coup, le cavalier va se retrouver sans monture. Si le cavalier était chargé d'apporter une bonne nouvelle, hein, à une armée en bataille, malheureusement, le message est perdu. La bataille peut être perdue. Si la bataille peut être perdue, ça peut être une armée donc de vaincus et qui peut perdre un royaume. À cause tout ça, à cause d'un clou. Bon, vous voyez l'enchaînement en fait. Hein. Bon, hein, c'est un dicton. Mais le plus petit acte d'obéissance pour Dieu peut être le début d'une grande chose. Noé, les clous de Noé ont fixé les planches, ont fait une arche qui a sauvé l'humanité. Mais encore faut-il pas se décourager, parce que je vous dis, il faut de la patience. Hein. Et surtout que c'était jour après jour, je lui ai dit, ça a pris du temps. Hébreux 10, 36 dit, vous avez besoin de persévérance. Et c'est vrai que l'obéissance se vit dans la persévérance. Dans les épreuves, des fois au-delà des épreuves, parce que dans les épreuves, on se pose des questions, mais est-ce que Dieu, c'est vraiment ce que Dieu m'a demandé? Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut? Hein, et puis il y a souvent de l'opposition, puis on se dit, est-ce que Dieu prend soin de moi? Parce que sinon, je ne connaîtrais pas celui-là. Enfin, on se pose des tas de questions quand on est dans l'épreuve. Et c'est là qu'il faut être assuré, ben oui, si au départ c'était clair, c'est ce que Dieu veut, eh bien, on fait confiance. Hein, et toujours se rappeler, ça c'est un verset qui revient souvent, on l'entend souvent, mais il faut le mettre en pratique. Hein. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Hein, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Rien, absolument rien, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Romains 8, 35, 39. Hein, Pierre, cité dimanche dernier. Faut pas se décourager, donc faut aller de l'avant. Ok. Parce que Dieu va toujours finir ce qu'il a commencé. Et un autre point, c'est que l'obéissance, ça veut dire marcher avec Dieu. Il est dit de Noé, Genèse 6, 9, il conduisait sa vie sous le regard de Dieu, ou selon les traductions, il marchait avec Dieu. Donc l'obéissance suppose qu'on apprenne à marcher avec Dieu. Et marcher, c'est quoi? Marcher, c'est mettre un pas devant l'autre. Dieu nous demande de faire un pas, mais tant qu'on n'a pas fait le premier pas, il ne va pas nous demander de faire le deuxième. Mais non, il faut déjà poser le pied là où il veut, et après on va poser le pied où il va nous montrer. Bon. Donc ça veut dire un pas après l'autre, et puis ça va être jour après jour. Donc c'est un acte de soumission et de confiance au jour le jour. Mais reconnaissons que dans ce domaine-là, souvent, nous, on veut bien mettre le pied, mais là où on connaît souvent, hein, parce que on délimite notre terrain, si vous voulez, mais là, on n'avance plus, on tourne en rond souvent. On tourne en rond parce que, quelque part, dès qu'on connaît pas, on n'ose pas y aller. Donc, on aime bien poser là où on connaît. Bon, c'est humain, hein, on est tous comme ça. Hein. Quand on est une zone de confort, parce que on veut bien s'impliquer dans des services, dans des choses qu'on connaît, on veut bien obéir à Dieu dans des domaines qu'on connaît, bon, on s'estime capable, donc il n'y a pas de problème, on y va. Mais si Dieu nous demande quelque chose où on se sent un petit peu un peu démuni, on serait tenté de trouver des excuses de ne pas y aller. Bon. Donc, c'est, je dirais, pas après pas, jour après jour, et même en zone inconnue. D'accord? C'est normal. Parce qu'une vie chrétienne, c'est une aventure. Il y a des surprises, des fois, ben oui. Hein. Il y a des incidents de parcours, il peut y avoir des rebondissements. Bon, c'est une aventure avec Dieu, c'est vrai. Mais attention, Dieu, de toute façon, il nous renouvelle hein, son onction, il nous donne les dons qu'il faut, hein, et il nous fait des rêves, des fois, pour qu'on aille plus loin, il nous fait rêver, bon, c'est bien. Ok, donc, ça, c'est la marche avec Dieu. Est-ce que vous savez comment on appelle ce système là, que des parents utilisent pour apprendre leur enfant? Un youpala. Youpala, c'est cet instrument avec des roulettes, là. L'enfant, il est bien maintenu, donc il ne sait pas marcher, mais il peut y aller, hein, il est soutenu. Il marche. Bon. C'est pratique pour les parents. Les spécialistes, il y a des kinés ou des ostéos qui vont dire que c'est très mauvais. C'est mauvais parce qu'il faut que l'enfant, il apprenne à marcher déjà à quatre pattes. Il faut qu'il apprenne déjà sur les fesses. Parce qu'en fait, il y a une relation déjà entre, je dirais, l'apprentissage de la marche et l'apprentissage du langage. Il y a des connexions qui se font et tout, il faut qu'il apprenne. Hein, à être à plat ventre, à quatre pattes. Bon, il faut qu'il tâtonne, il faut qu'il tombe, il faut qu'il se relève, il faut qu'il trouve son équilibre tout seul. Bon. Donc, comprenez, le youpala, c'est pas l'idéal. Et Dieu ne veut pas qu'on nous apprenne à marcher dans un youpala. Il veut pas nous soutenir hein, trop tôt. Il veut qu'on apprenne à travers ben, nos chutes, nos tâtonnements. Et le franchissement des obstacles. Parce qu'une fois qu'on s'est marché sur du terrain plat, face à un obstacle, il veut qu'on arrive à sauter l'obstacle. Et là, je vais prendre une autre illustration. Je vais prendre l'impala. C'est ce que c'est qu'un impala? Ah, bravo! Voilà. On peut voir l'impala? Voilà. Une sorte de gazelle, Afrique du Sud. Et ce qui est intéressant, cet animal, c'est qu'il fait des bonds pour échapper à ses prédateurs, des bonds de plus de 10 mètres. Et une hauteur de plus de 3 mètres. Je ne sais pas si vous voyez les performances de cet animal-là. Et cet animal qui est capable de sauter aussi loin et aussi haut, eh bien, on le tient parqué dans des enclos avec des palissades qui font 1,20 m de haut, pas plus. Et il ne part pas, il ne sort pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la palissade 1,20 m empêche l'animal de voir au-delà. Et s'il ne peut pas voir où il va atterrir, il ne va pas sauter. C'est pas mal comme caractéristique. Mais ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, souvent, on fait comme les impalas. C'est-à-dire, on doit sauter, mais non, je ne vais pas, je ne sais pas où je vais atterrir. Faut que je ne saute pas. Allez. Et marcher par la foi, c'est comme si on voyait l'invisible. Hein. Hébreux 11, 27, là, hein, qui est dit à propos d'Abraham. Quoi. Et il partit sans savoir où il allait. Hébreux 11, 7 aussi. Et il a quitté vraiment, il a quitté sa zone de confort, lui, pour aller où Dieu lui demandait d'aller. Ça veut dire qu'il vient toujours un moment où, ben, c'est vrai, il faut y aller, il faut sortir de la zone de confort, et puis il faut aller où Dieu nous montre. Il y a des impondérables, on le sait, mais on fait confiance à Dieu. C'est comme la nuit quand vous conduisez une voiture, eh bien, vos phares éclairent une certaine distance. Mais ce qu'il y a derrière le virage, vous ne voyez pas. Hein. Ben oui, hein, vous faites une portion de route à la fois, c'est éclairé, bon, voilà. Et bien c'est un peu comme ça, la foi, bon, jusque-là je vois, bon, puis après je fais confiance à Dieu. Bon. Voilà. Sinon on va se donner des excuses. Hein. Et on se donne souvent des excuses, parce que oui, ben Dieu ne m'a pas expliqué, il ne m'a pas dit en détail et tout, non, avec Dieu, c'est pas comme Dieu, il donne une directive et puis après on fait confiance. Un autre point, c'est l'obéissance, c'est une porte ouverte quand même aux bénédictions. Hein. Genèse 6-8, on l'a lu, Noé obtint la faveur de Dieu. Parce que l'obéissance, je vous l'ai dit, c'est l'attitude de cœur donc, qui nous rend agréable à Dieu. Et comme ça plaît à Dieu, Dieu, en fait, il va faire pour nous ce qu'on ne peut pas faire. Il entend nos prières, il va y répondre. Et donc, il va pourvoir. Il va pourvoir beaucoup de choses. Hein, la faveur de Dieu, j'ai noté, ouvre toutes les portes. J'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Apocalypse 3:8. Oui. La faveur de Dieu peut changer une opposition en soutien. Il y a Proverbe 16. 7 qui dit « Quand la conduite d'un homme est agréable à l'Éternel, il lui concilie même ses ennemis. » Dieu sait ce qui est bon pour nous. Hein. On a besoin d'une promotion d'un travail, il nous l'accordera, si on est obéissant. Mais si vous ne l'êtes pas, c'est pas gagné. Hein. On a un dossier compliqué à boucler, on est quelqu'un qui vit dans l'obéissance, Dieu ne demande qu'à nous aider, il va nous aider. Hein. Dans tout domaine qu'on peut connaître, on s'adresse à Dieu. Mais je vous dis, Dieu ne demande qu'à nous aider. Encore faut-il qu'on ait un cœur bien disposé. La faveur de Dieu ouvre pour qui lui obéit la porte à d'incroyables bénédictions. Et ça, c'est un principe spirituel qui est mentionné en toutes lettres, en Deutéronome 28, 2. Si vous obéissez à l'Éternel, votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu va vous combler. Et la liste suit. Et un peu plus loin, verset 15, « Par contre, si vous n'obéissez pas à l'Éternel, voici quelles malédictions tomberont sur vous. » Et la liste suit. Et quand je parle d'ouvrir les portes, ou fermer les portes, notez que c'est toujours Dieu qui ouvre une porte et qui la ferme, en fait. Et pour Noé, par exemple, puisqu'on parle de Noé, Genèse 7, 1, Dieu dit à Noé, « Entre dans le bateau. » Et quand tout le monde est entré, quelques versets plus loin, verset 16, « L'Éternel referme la porte. » Ferme la porte, il met tout le monde en sécurité, après il va faire venir le déluge. Et quand c'est fini, donc chapitre 8, verset 16, Dieu dit à Noé, sors du bateau, maintenant tu peux sortir. Okay. Et Noé va sortir, et Dieu va faire alliance et va bénir Noé. Et un peu dans le même domaine, Paul va dire, donc en 1 Corinthiens 16, 9, une porte s'est ouverte, toute grande à mon activité. Dieu a ouvert une porte, mais les adversaires sont nombreux. Il y avait la porte ouverte, donc une bénédiction que Dieu mettait devant Paul, avec une occasion, je dirais, une opportunité, mais il y avait les adversaires. Mais Paul, il a regardé la porte ouverte, il est allé. Il ne s'est pas laissé arrêter par les adversaires en disant, ben non, il y a une porte ouverte, mais bon, je vais devoir affronter les adversaires. Donc nous, il faut quand même savoir que parfois Dieu ouvre une porte, hein, c'est une bénédiction qui est devant nous, mais ne nous laissons pas arrêter par d'éventuels obstacles. Qui pourrait, ben, des fois, nous faire peur. Et obéir à Dieu, c'est une attitude, effectivement, qui parfois va paraître insensée à l'homme. 1 Corinthiens 1, 27, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Des fois, on cherche trop à avoir l'approbation des hommes, je dirais, pour être confirmé dans une décision qui vient de Dieu, que Dieu a pris pour nous. Mais méfions-nous, parce qu'on risque de limiter Dieu dans ce qu'il veut faire. Parce que ça dépasse souvent notre sagesse, notre raison humaine. Je vous rappelle que Noé, quand il a construit un bateau dans un désert, eh oui, hein, ça paraissait insensé, on a vraiment dû se moquer de lui, mais il est fou, Noé. Il est fou. Tout le monde a dû se moquer de lui. Et on est dans un monde où il y a beaucoup de moqueurs. Et surtout quand on est chrétien en plus. Et qu'on témoigne de notre foi. Mais, psaume 1:2, il est mis. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui met toute sa joie dans la loi de l'Éternel. Et on pourrait citer, je n'ai pas fait, parce que ça aurait fait trop long, mais j'avais un tas de noms à citer, où j'aurais pu vous dire comment ces hommes-là et ces femmes ont marché par la foi, mais c'était insensé. Insensé, humainement parlant. Bon. Mais ça, on comprend. Parce qu'on est peut-être tous déjà passés un peu par là. Faisons comme Noé. Prenons notre scie, notre marteau, nos clous, nos planches, et puis construisons notre arche. Enfin, à nous, ce que Dieu nous demande. Et obéissance, donc, ça implique passage à l'acte. Parce qu'obéir, c'est pas seulement écouter Dieu parler, lui dire oui, ne pas faire. Et là, vous connaissez la parabole que Jésus donne, justement, aux responsables, d'ailleurs, à des responsables religieux. Il parle de cet homme qui envoie ses deux fils travailler dans son champ, plus précisément dans sa vigne. Et pour Jésus, la vigne, c'était le peuple de Dieu, et il parle aux responsables qui sont censés être les vignerons, d'ailleurs. Et on va le lire ensemble après tout. Matthieu 21. Ça n'aura pas besoin de commentaires parce que le texte parle de lui-même. Que vous en semble, 21, verset 28. Chapitre 21, verset 28. Que vous en semble, un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Bon. On a compris. L'un, il dit oui. Une parole, effectivement, d'acceptation. Enfin, le premier, non. Le premier, il a dit non. Refus, puis après, il est allé. L'autre a dit oui, mais il n'a pas été. Et celui qui a fait la volonté, bien sûr, c'est celui qui est passé à l'acte. Donc il ne suffit pas de dire oui, il faut que la décision qu'on exprime par la bouche soit suivie d'effets et d'actes. Ce que Jésus dira, d'ailleurs, on connaît bien ce passage, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et là, Jésus met bien l'accent non pas sur les belles déclarations, mais sur l'obéissance à la volonté de son Père. Et on peut reparler de ce que dit Jacques aussi dans sa lettre, que la foi sans les œuvres ne sert à rien. Eh oui. La foi doit être manifestée de façon visible dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on témoigne. Okay. On doit pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance, Éphésiens 2:10. C'est des versets que vous connaissez par cœur. Devriez. Et encore un dernier point, donc c'est l'obéissance à notre défi quotidien. Parce que Dieu désire qu'on soit toujours au cœur de ses projets. Il veut qu'on soit là où il nous veut et il attend de nous effectivement une obéissance à sa volonté. Je vous rappelle donc que le malin, il est là, il veut tout faire pour qu'on désobéisse à Dieu. Eh oui, ça faut le savoir. Et que nous, on doit en tout point essayer de faire comme Jésus, effectivement, donc, avoir une obéissance à ce que Dieu demande. Et c'est le seul moyen de se qualifier, de toute façon, pour un jour partager l'éternité glorieuse qui nous est promise. Il ne suffira pas de dire Seigneur, Seigneur. S'il n'y a pas eu cette relation personnelle au jour le jour, à travers donc une écoute attentive de ce qui plaît à Dieu, on marche en compagnie de Jésus, on obéit, on le connaît, il nous connaît, ça c'est important. Sinon, il dira, je ne vous connais pas. Donc c'est notre défi. D'être toujours en bonne relation avec Dieu. Parce que Dieu, il veut bénir. Il veut bénir et nous, on doit obéir. Et si vous regardez ces deux mots qui sont indissociables, interdépendants, il n'y a qu'une lettre qui change, en fait. Le N de bénir, c'est le O d'obéir. Mais ça veut dire le non de l'homme d'être le oui à Dieu. Enfin, ils ont fiché. Mais ça veut dire, on le dit entre eux, autrement, je dois toujours dire oui à Dieu. C'est comme ça que Dieu va bénir, en fait. Bon, il n'y a pas besoin de faire de dessin, d'ailleurs. Je me suis amusé à faire un dessin. Bon. Dieu bénit quand on obéit. C'est pas plus compliqué. Enfin, ça a l'air. Facile à dire. Josué 1:8, donc que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ah, tout le monde veut réussir, tout le monde veut avoir du succès, mais bien peu parfois veulent obéir. Okay. Ben donc, il ne faut pas se décourager, je dirais, il ne faut pas se laisser effrayer par l'homme non plus. Hein. Fortifie-toi, prends courage, ne crains rien, n'aie pas peur du monde. Parce qu'en fait, on va voir que tout ce qui va mal, c'est la façon dont le monde est géré. Nous, on doit être attentif au Saint-Esprit, on doit écouter le Saint-Esprit, nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Oh, il y a un dessin qui est rigolo, là, parce que vous voyez, hein, c'est un peu le monde dans lequel on vit. Hein. Obéissez. Bon, oui, c'est complètement. Mais des fois, on a des lois, on a des gens qui nous dirigent d'une façon. Bon, on se pose des questions. On s'étonne que ça va mal. Et là, je voudrais vous l'illustrer. Alors, bon, hein, c'est un peu pour finir. On va finir. Enfin, finir. On finira pas, mais faire sourire un petit peu. Enfin, moi, ça m'a fait sourire. Vous savez que donc l'appel de Noé parlait des temps modernes. Bon, on va dire en 2016. Hein, il y a quelques années. Bon, l'Éternel visite Noé. Lui dit, bon, une fois encore, la terre est devenue invivable et surpeuplée. Je dois agir. Construis une arche, rassemble un couple de chaque être vivant. Tu as 6 mois pour cela, avant que je n'envoie la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. 6 mois plus tard, l'Éternel regarde en bas, il voit Noé, balayant sa cour. Aucune arche. Noé, gronda-t-il, je vais bientôt envoyer la pluie. Où est l'arche? Pardonne-moi, mon Dieu, implora Noé, mais les temps ont changé. J'avais besoin d'un permis de construire pour commencer l'arche. Bon. J'ai dû me battre des mois avec l'inspecteur au sujet du système d'alarme pour l'incendie. Pendant ce temps, mes voisins se sont réunis en association parce que je violais les règles du lotissement en construisant une arche dans ma cour et que j'allais leur obstruer la vue. Ah oui. On a dû aller devant le conciliateur pour avoir un accord. Ensuite, l'urbanisme a déposé un mémoire sur le coût des travaux nécessaires pour permettre à l'arche d'arriver jusqu'à la mer. J'ai eu beau leur dire que c'est le contraire, que c'est la mer qui est arrivée jusqu'à l'arche, mais ils n'ont pas voulu rien entendre. Bon. Hein. Obtenir du bois en quantité suffisante, ça a été compliqué. Parce que les associations pour la protection de l'environnement se sont liguées pour empêcher la coupe des arbres. Eh oui, sous prétexte qu'on allait détruire l'habitat des espèces animales. Alors que je leur expliquais que c'est pour sauver les espèces animales que je faisais une arche. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas voulu comprendre. Bon. Ensuite, l'Agence gouvernementale pour le développement durable a voulu lancer une étude sur l'impact sur l'environnement de ce fameux déluge. Et dans le même temps, je me débattais avec l'administration sur l'emploi des travailleurs bénévoles. Parce que j'ai pas pu employer mes fils. Eh non, j'avais pas le droit. Bon, hein, il fallait du personnel hautement qualifié. Et si possible, syndiqué. Bon. Et pour arranger les choses, le fisc a saisi tous mes avoirs, prétendant que je tentais de fuir le pays illégalement. Eh oui. Et les douanes, en plus, ont ajouté que je voulais faire passer la frontière à des espèces reconnues et dangereuses. Aussi, pardonne-moi, Seigneur. Je sais même pas si... Hein, si 10 ans aurait suffi, mais je crois que à construire l'arche. Et aussitôt, les nuages disparaissent, un magnifique arc-en-ciel apparaît, et Noé lève la tête et dit, tu vas pas détruire le monde? Pas la peine, répond l'Éternel. L'administration s'en charge. On peut sourire, mais il y a beaucoup de vrai. Bon. Donc on vit des temps difficiles, où comme du temps de Noé, il y a de la violence, il y a de l'immoralité, c'est vrai. La corruption, tout ça. On a des gens qui nous dirigent qui ne veulent pas conformer les lois aux lois de Dieu. Le monde est mal géré, c'est vrai. Mais, on a un Dieu souverain. On a un Dieu souverain, tout puissant. On le dit, on le chante, et je le répète, il contrôle tout et fait que toute chose concourt, effectivement, à notre bien. Donc on doit savoir lui faire confiance. Et lui obéir en tout domaine. C'est ce qui va réjouir le cœur de Dieu, d'ailleurs. Et s'il est réjoui, il va se montrer favorable, il va nous bénir, et il accordera le salut à tous ceux qui vont lui demander. Et je préciserai simplement, bon, hein, je n'y vais pas, mais beaucoup aussi, on pourrait dire, je parle de salut, maintenant, Dieu n'a plus d'âne Noé, hein, Jésus est venu, Jésus est venu en personne. Bon, maintenant, l'arche, beaucoup compare des fois, l'église est un peu l'arche, on est sauvé. Vous êtes dans l'église, hein, vous êtes dans l'arche, hein, vous êtes sauvés, tous ceux qui croient en Jésus. C'est Jésus qui prend soin du bateau, il va le conduire. Hein. On est sûr d'arriver au port, il n'y a pas de problème. Contre vent des marées, ça ne coulera pas non plus, on est sûr. Bon. Mais heureux ceux qui font partie, effectivement, hein, de ce, hein, cette arche qui est l'église. Prenez là toutes les images de l'église, de ce troupeau, de ce temple, de cette famille, bon, tout ça. On est vraiment aux côtés de Jésus et disons qu'il n'y a plus besoin de l'arche. Mais merci Noé quand même, de son modèle d'obéissance. Et ça, c'est important quand même. Bon, tout n'est pas dit beaucoup sur l'obéissance, mais c'est des points que je voulais ressortir parce que, bon, moi ça me parle, je pense que ça parle à plusieurs d'entre nous, il y a différents points. C'est vrai qu'on veut obéir, mais des fois, concrètement, on a du mal à passer à l'acte. Voilà. Je vous invite, prions quelques instants. Seigneur, c'est vrai que nos vies sont entre tes mains, Seigneur. Tu es ce Dieu souverain, tu es ce Dieu tout-puissant, tu es ce Dieu qui dirige toutes choses et tu le fais par amour, Seigneur. C'est par amour que tu nous as donné la vie, c'est par amour que tu nous as sauvés, Seigneur. C'est par amour que, Seigneur, tu fais que toute chose, concourt à notre bien, Seigneur, c'est vrai. Et ce matin encore, on en prend conscience, Seigneur, mais avec ce sentiment que, puisque tu diriges toute chose, le mieux qu'on ait à faire, c'est de te laisser agir, Seigneur. Le mieux qu'on ait à faire, c'est de te faire confiance. Le mieux qu'on ait à faire, c'est de faire ce que tu nous demandes, Seigneur. Et notre prière, c'est que tu viennes renouveler dans notre cœur, Seigneur, ces dispositions d'abandon à toi, Seigneur, parce qu'on sent qu'on a besoin d'être affermi encore, pour aller des fois là où tu veux, Seigneur, pour bien faire ce que tu nous demandes de faire, pour parler et dire ce que tu veux qu'on dise, Seigneur. On a toujours besoin d'être à l'écoute de ton Saint-Esprit, et c'est ce qu'on te demande. Viens encore, Seigneur, façonne notre oreille, Seigneur, intérieure, notre oreille spirituelle, qu'on soit sensible à ce que le Saint-Esprit nous dit, Seigneur, pour obéir à ta voix, Seigneur. Et vraiment, viens encore, réchauffe ce cœur, viens susciter de l'enthousiasme, Seigneur, viens ranimer des fois notre découragement, Seigneur, en sachant que, ton œuvre, elle se fait dans le temps. Parfois, on a une vision un peu étroite, Seigneur, étriquée du domaine dans lequel on travaille, mais toi, tu as du recul, et si on savait, on serait encouragé, Seigneur, et je te prie d'encourager chacun des frères et sœurs qui sont là ce matin, Seigneur, pour que, dans le contexte où chacun œuvre à sa façon, Seigneur, tu fasses prendre conscience que pour toi, rien n'est inutile, Seigneur. Tout ce que tu veux, c'est qu'on fasse ce que tu nous demandes, et Seigneur, on te laisse, faire que les choses arrivent selon tes projets, Seigneur. Lesquels projets, on sait, sont merveilleux, Seigneur. Seigneur, fais de nous tous des enfants obéissants, Seigneur. On forme vraiment une famille à laquelle on est heureux d'appartenir, mais qui est au moins cette obéissance au père de famille, au frère aîné, pour qu'il y ait la meilleure entente possible, et Seigneur, que le monde aussi puisse s'en rendre compte, Seigneur. Qu'on puisse réjouir ton cœur, Seigneur, et aussi, toujours faire ce qui te plaît. C'est ce qu'on te demande. Au nom de Jésus. Amen. Amen.